Thank you. Allegre FM avec Jean-Marc Gélin.
Eh bien, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Jazzland. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et on est particulièrement heureux de vous retrouver parce que c'est une émission exceptionnelle. Des fois, il m'arrive de dire ça, mais là, c'est vraiment, ça prend vraiment toute sa mesure quand vous allez découvrir les musiciens que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, parce que ce sont deux musiciens exceptionnels sont de ceux qui écrivent un peu l'histoire de cette musique en ce moment, de ceux qui marquent de leur empruntent cette musique non seulement par ce qu'ils disent au travers de leurs projets, ils vont nous parler de leurs projets là, mais aussi par ce qu'ils font dire aux autres. Moi j'aurais tendance à dire que ce sont des enlumineurs, et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'il s'agisse de leur propre projet, ou quand ils sont en co-leader ou qu'ils sont en sideman, c'est pour ça qu'ils sont très demandés. Moi je trouve que à un moment où on est en train de parler de musique artificielle, ce qui est absolument terrifiant, eux ils mettent leur doigt de pianiste ou de violoncelliste sur ce qui fait l'essence de cette musique et même de la tradition de cette musique, la racine de cette musique. Alors, en fait, on avait, moi j'avais envie d'intituler cette émission L'art des trios. Pourquoi ? Parce que nos deux invités ont deux projets qui sont chaque fois en trio, et il se trouve que par hasard, on a découvert en allant à Nevers cette année qu'ils étaient réunis tous les deux. Ils se connaissent bien parce qu'ils éclusent les scènes du jazz depuis un certain nombre d'années, et même les orchestres. Mais il se trouve que là, ils sont sur un nouveau projet où ils sont réunis tous les deux, mais en trio, avec une clarinettiste. Alors aujourd'hui, on est particulièrement heureux de... Alors, notre invitée de deuxième partie n'est pas encore là. J'espère qu'elle va arriver, j'en suis sûr. En première partie, notre invité, il est venu avec son violoncelle. Je ne ferai pas l'affront de faire sa biographie. Il nous arrive aujourd'hui avec Lion for Lions, un album qui est sorti sur le label La Buisson. Et il s'appelle comment ? Je vais lui laisser dire son nom.
Je suis Vincent Courtois. En effet, je suis violoncelliste et je suis à la tête de ce trio. Enfin, je dis à la tête d'un trio qui est un trio un peu à trois têtes, avec Daniel Hartmann et Robin Finker, et je viens présenter en effet ce disque qui s'appelle Lines, au pluriel, Lines for Lions.
Ah oui, parce qu'il y a un Line for Lions qui est un thème de Chet Baker.
Non, de Jerry Mulligan.
Ah oui, pardon, mais jouer avec...
Voilà, c'est là, il y a une version célèbre en effet avec Jerry Mulligan et Chet Baker. Bon, voilà, comme c'est un disque qui est, je ne sais pas si c'est inspiré, mais c'est une espèce d'évocation en tout cas de là où le jazz West Coast nous a tous les trois touché. C'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de faire ce projet, et ce titre s'est un peu imposé. En principe, c'est Line, le titre du morceau de Jimmy Glenn, c'est Line for Lions avec un Y. Et là, un peu comme un petit clin d'œil, on a fait plusieurs lignes, Lines et Lions au pluriel aussi, mais sans Y.
Et d'ailleurs, quel est le titre de... On vient d'entendre un morceau justement de cet album.
Lion's Den.
Ce trio, c'est un trio qui existe depuis de nombreuses années.
Ça fait... c'est assez incroyable, on se l'a dit tout à l'heure, en fait, on a compté, ça y est, et on est à notre 15e année, ce qui est... c'est vrai que c'est beaucoup de temps, et c'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même un petit exploit, en fait, de réussir à tenir un groupe dans cet univers de la musique, et particulièrement de la musique jazz, et de ne pas trop... céder au fait de sans arrêt changer. C'est vrai que dans la musique, dans mes formations, moi je crois énormément à la fidélité, et je crois aussi énormément à ce que peut vraiment apporter le temps qu'on passe ensemble, le temps qu'on passe à répéter, à jouer, à faire des concerts, à voyager également, et donc à avoir une vraie histoire commune. Et c'est immédiat. Au moment du concert, c'est la chose qui ressort immédiatement, c'est toutes ces choses. Ce qui ressort immédiatement, c'est toutes ces choses qu'on n'a pas besoin de dire.
Alors, on attend notre invité de deuxième partie, qui n'est pas encore là, mais que nous espérons. Il s'agit de la pianiste Sofia Domancic, puisque je disais tout à l'heure que vous aviez un nouveau trio qui n'a rien à voir, un peu plus éloigné du jazz, mais pas tant parce qu'il y a de l'improvisation quand même, avec Catherine Delaunay. Et donc j'aurais aimé qu'elle soit là pour lui poser la question, mais c'est pas grave. Je vous la pose, je la reposerai à Sophia. On a, là, ça fait trois formations, trois trios. Est-ce que vous, comme Sophia, enfin vous pouvez pas répondre pour Sophia, mais vous êtes particulièrement à l'aise avec ce format du trio? C'est quelque chose qui vous convient particulièrement?
Alors moi, pour différentes raisons, je suis pas un musicien de grande formation. J'ai jamais... Je me sens pas forcément très. J'ai fait l'ONG avec plaisir. J'ai fait. Je me souviens justement de ces orchestres-là. J'ai joué dans quelques ten-ten ou des orchestres comme ça. Mais par nature aussi, peut-être par mon instrument, j'aime bien. Je me sens bien dans l'intimité de petites formations. Mes formations de prédilection, c'est le duo, le trio. J'ai eu pendant très longtemps aussi un quartet. Pendant quelques années aussi, un quartet qui a pas mal tourné. Et c'est vraiment là où j'ai l'impression de me sentir le plus moi-même et aussi le plus proche des gens avec qui je joue. Et dans ces formations, oui, le trio est évidemment une de mes formations préférées, celle qui permet vraiment une vraie circulation, des vrais échanges, beaucoup de possibilités, beaucoup de combinaisons différentes. Par contre, évidemment... c'est toujours un choix qu'il faut vraiment manier avec beaucoup de précision de trouver les bonnes personnes.
C'est ce que j'ai entendu. Alors, on sent que c'est un travail d'équilibriste. En plus, là, dans ce trio qui existe depuis 15 ans, là, vous étiez fâché avec les pianistes. Vous avez dit, je ne veux pas de pianiste pour d'autres raisons. C'est pianolaise, d'ailleurs, comme Chet Baker et Jerry Mulligan, d'ailleurs. Hein. C'était ça,
pour nous, c'est un peu une des particularités. C'est un peu dans notre vision du jazz West Coast. Là, cette possibilité, en effet, un peu chambriste, d'écrire des contrepoints et de voir les choses un petit peu différentes. Et justement de se passer aussi d'instruments harmoniques et de voir ce que ça peut provoquer. Après, ce trio, comme j'ai dit, existe depuis 15 ans et je pense que dès la première répétition, c'était assez frappant, il y a donc 15 ans, c'était un concert en préparation, c'était la création, était au Festival Banlieue Bleue il y a une quinzaine d'années. Et je me souviens très bien que pendant cette première répétition, ce son qu'on a encore et qu'on l'avait déjà, il était évident, c'était hyper naturel et en fait, sans se l'être vraiment dit, cette petite connotation West Coast était déjà un petit peu là. Et là, c'est un petit peu avec ce disque-là, avec le disque qu'on vient de faire maintenant. Là, c'est un peu comme si on disait, voilà, en fait, il y a toujours eu ça. En fait, il y a toujours eu ça entre nous, cette histoire, cette manière de un peu chambriste, de mélanger les instruments et de se permettre en fait des formations originales, voire des formations qui n'ont jamais existé. Et là, pour le coup, même sans batterie.
Alors,
sans batterie, sans basse et sans piano.
Je vous propose, je vais faire une surprise qui va faire hurler Armand, qui est à la technique et qu'on en profite pour remercier. Je vais vous faire écouter quelque chose et me dire si ça vient de l'ordinateur. Donc désolé, mais on va vous faire écouter juste 30 secondes. C'est juste pour savoir si ça vous évoque quelque chose.
Oui, bien sûr. Alors ça c'est Fred Katz. C'est Fred Katz, violoncelliste dans le quintet de Chico Hamilton.
Vous avez vu, c'est incroyable. C'est en l'espace de même pas 30 secondes.
Hein, parce que c'est vraiment... ce qui se passe... Bon, là, je remonte à quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune.
Quand on
commence à s'intéresser au violoncelle un peu ailleurs, qui s'est frotté un peu à d'autres musiques, on va chercher les violoncellistes dits de jazz. Et très rapidement, on arrive à Fred Katz, qui était donc vraiment qui faisait partie de ce célèbre quintet, le quintet de Chico Hamilton, qui a fait plusieurs disques. Il y a un disque que moi j'adore qui s'appelle Quintetifi. Il y a tout un disque hommage à Ellington avec le thème d'Ellington qui est très beau. Et justement, je trouve que ce qui est intéressant dans la musique de Chico Hamilton, c'est qu'il a cherché régulièrement une place au violoncelle. Évidemment par Fred Katz, mais il y a aussi un disque avec Eric Dolphy, où c'est un violoncelliste, à mon avis, plus classique, qui s'appelle Nathan Gerchmann. Et Fred Katz, je trouve ça extrêmement touchant. Je ne peux pas dire que c'est vraiment un violoncelliste qui m'est directement inspiré. Pas vraiment dans son jeu, mais plutôt dans la place qu'on lui a donnée dans certains orchestres et non seulement dans celui-là. Et je trouve qu'il a quelque chose de très particulier. Il joue du violoncelle comme on le jouerait plus vraiment, je crois, maintenant. En tout cas, moi, je ne jouerais pas comme ça, mais avec cette espèce de vibrato... De vibrato un peu classique, mais quand
à
même avec
Chambers.
Avec une espèce de manière un peu extrêmement lyrique dans des projets qui ne le sont pas forcément, qui donnent une touche particulière. Et moi, j'ai toujours adoré Fred Katz, et j'ai toujours adoré aussi le quintet de Chick Comington, qui
avec
pour
Buddy
moi,
Collette.
Avec Buddy Collette, avec Jim Hall, qui pour moi, justement. C'est une parfaite illustration de ce qu'on a pu appeler ce jazz de chambre, et puis avec cette couleur West Coast qui est peut-être liée aussi à l'endroit où ça a été enregistré.
On va revenir sur cette notion de jazz chambriste et puis de notre relation avec les musiciens, mais je vous propose qu'on écoute un autre titre. On va écouter Alone in Fastland. Ok, on y va. Et oui, vous êtes bien sur Jazzland à Lire FM 93.1 en compagnie de Vincent Courtois pour la sortie de l'album Lions for Lion, paru sur le label de La Buissonne il y a quelques jours, il est paru le 7 novembre, en même temps que l'album de notre invité de deuxième partie, qui, donc, on attend, elle va, je pense, franchir la porte d'ici quelques secondes, je pense même qu'elle doit être derrière la porte, j'imagine, et elle va arriver, je pense. Vincent En fait, on parlait de cette notion de trio, et on va en faire parler aussi, Sophia, là-dessus, parce que c'est aussi sur votre nouveau projet. Il y a une notion d'équilibrisme, quand même, entre les trois musiciens. Vous êtes un peu sans filet, là. Vous n'avez pas de piano derrière vous. Alors, c'est pas pareil avec le trio Johannes, mais il y a les notions d'espace, de...
Ouais. Avec le trio, en tout cas celui avec Daniel et Robin, le trio de Lines for Lions, moi ce qui m'intéressait depuis le début, c'est au lieu d'avoir un orchestre très complet qui offre beaucoup de possibilités avec des instruments très différents, l'idée c'était d'avoir des instruments qui se ressemblent, voire les mêmes, hein, puisqu'il y avait il y a deux sax ténors, un violoncelle, et je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir imaginer la musique en masse, à certains moments, en unisson, en timbre vraiment proche, moi depuis très longtemps, on m'a souvent dit, hein, tu sonnes un peu comme un sax ténor. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant dans cette formation-là, précisément de creuser cette histoire, et aussi parce que pour moi le sax ténor et le violoncelle sont des instruments qui peuvent jouer à être beaucoup d'autres instruments sans jamais l'être vraiment. Un violoncelle peut sonner un peu comme une contrebasse, mais pas vraiment, c'est jamais vraiment une contrebasse quand même.
Et vous avez toujours choisi le violoncelle. Vous
moi,
avez
j'ai
jamais
toujours,
eu le.
J'ai fait le violoncelle. Moi, voilà. j'ai toujours choisi ça.
Il peut être. Non, parce que là, on vous entend. On vous entend. C'est presque de la contrebasse. Enfin, en tout cas, c'est des.
Ouais, mais c'est pas. Ça sonne pas exactement.
Ah non,
ça
sonne pas.
C'est même. Et puis l'instrument non plus, il n'est pas accordé de la même manière. Donc, ça veut dire que même les phrases vont pas être les mêmes. Donc, comme je dis, c'est. Ça ressemble, mais c'est pas vraiment ça. C'est un peu. Ou ça peut être un peu un violon, mais pas vraiment. Enfin, c'est des instruments qui peuvent jouer beaucoup de rôles. Il y a une énorme tessiture au violoncelle et ils peuvent jouer beaucoup de rôles différents. Le ténor, c'est un peu ça aussi, en fait. Et je trouvais ça intéressant aussi dans ce trio d'imaginer que chacun, à des moments, peut prendre des places différentes, notamment faire des lignes de basse aussi au saxophone, enfin, accompagner d'une certaine manière, improviser des contre-champs. Enfin, ça offre beaucoup de possibilités. Et puis aussi bah, évidemment, c'est pas... Un violoncelliste qui est censé pratiquer les suites de Bach quotidiennement, ce qui est mon cas en fait, c'est que bah, voilà un grand, évidemment, un génie absolu qui a vraiment travaillé sur le fait de comment aussi faire entendre l'harmonie avec un instrument monophonique. Et bah, voilà, ça aussi fait partie d'une certaine culture qui fait qu'on peut aussi, même sans piano, dans une formation comme ce trio-là, faire entendre des mélodies, faire entendre des contre-champs, faire entendre des accords, faire entendre des rythmiques, enfin faire entendre beaucoup de choses. Voilà, et c'est je trouve ça intéressant. Et aussi, ça laisse une certaine liberté, que j'aime. Je trouve ça intéressant de cadrer cette liberté à des moments, même de la cadrer de manière un peu extrême, comme ce qu'on a pu entendre aussi dans certains... ces morceaux-là où il y a des grilles tout d'un coup qui défilent, qui sont vraiment comme des cadres, et puis à d'autres moments d'ouvrir complètement. Voilà, exactement de la même manière qu'avec un trio avec piano ou guitare.
J'ai une question pour vous, violoncelliste. On a dû vous la poser des milliards de fois, donc je pense que si j'avais cherché plus, j'aurais dû trouver la réponse, mais voilà. J'ai pas assez travaillé. À quel moment vous vous êtes dit, en tant que violoncelliste, moi, je bifurque, c'est le jazz?
Alors, on ne m'a pas posé tant de fois cette question-là.
Yes.
On me l'a posé d'autres manières. Cette musique, le jazz, moi, ça a toujours été un peu là, un peu présent dans ma vie depuis l'adolescence, depuis 14-15 ans, quoi. Ça a toujours été un petit peu là. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai travaillées au départ de manière complètement instinctive. Pour essayer d'apprivoiser ce langage. Au départ, j'ai essayé de l'apprendre d'une manière très, très instinctive. Et donc, finalement, quand je me suis penché un peu plus, c'était pour moi presque une évidence que j'ai pas eu l'impression, si vous voulez, de faire une révolution en disant « je vais faire du violoncelle un instrument de jazz ». Pour moi, c'était presque évident. Oui, j'ai pu me poser à un moment donné la question de me dire « Ah, j'aurais bien, peut-être je devrais jouer du sax, ou peut-être changer d'instrument ou la guitare. » Mais très rapidement, je me suis dit « Non, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à inventer, beaucoup de choses à creuser. » Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mené... quand même, j'étais dans des niveaux assez forts, quoi, au violoncelle, dans la musique classique. J'avais passé des concours, etc. Et puis, je me souviens, depuis ça s'est fait d'une manière assez naturelle. C'est un jour, j'ai eu mes deux premiers mes deux premiers employeurs, entre guillemets, qui m'ont appelé. Le premier, c'était Christian Escoudet, mmh. et le deuxième, c'était Didier Levallet. Et ils m'ont appelé, et les deux au même mois, qui était en décembre 80 quelque chose. Et je me souviens très bien, en fait, il m'avait appelé de la part de Jean-Charles Capon, violoncelliste également. Et là, en fait, tout simplement, j'ai plus eu le temps. J'ai plus eu le temps de me consacrer à la musique classique et j'ai arrêté. Et j'ai décidé, et comme il y a beaucoup d'opportunités, puis j'avais vraiment envie de creuser là, puis j'ai fait mon premier quartet, puis c'était parti.
Et puis on va en reparler tout à l'heure quand Sophia sera là, parce que vous y revenez quand même par d'autres pas. Je vous propose qu'on écoute un troisième titre, Oboe Clown, qui est un titre, c'est une composition de...
C'est une composition de Robin Finker.
De Robin Finker, voilà. Je vous propose qu'on l'écoute. Vous êtes bien toujours sur Jazzland à l'YFM 93.1 en compagnie de Vincent Courtois pour la sortie de l'album Lion for Lion sur le label de La Buissonne et en compagnie de celle que je vous présentais, je ne sais pas si j'ai dit son nom tout à l'heure, celle qui, comme Vincent Courtois, écrit tous les jours les pages du jazz et une musicienne exceptionnelle. On parlait tout à l'heure, je disais, en vous présentant tous les deux, vous étiez des enlumineurs parce que vous apportiez la lumière sur vos projets, mais aussi sur les projets des autres. Alors, on va pas faire sa biographie, mais elle va dire elle-même son nom.
Sophia Domancich.
Sophia Domancich, qui vient nous parler de l'album Wishes, paru sur le label Peewee, mais qu'on trouve en lumineur aussi, parce que, parce qu'aussi dans plein d'autres projets, qu'il s'agisse du projet de Théo Girard, par exemple, ou de Mathieu Denarié, avec qui on était hier, et qui vous salue d'ailleurs, et qui fera l'objet d'une prochaine émission. Sophia Domancich, merci d'être avec nous.
Merci de m'inviter.
Et alors, il se trouve que c'est un hasard. Alors, vous allez pouvoir nous en dire deux mots avant de parler de Wishes. Il se trouve que c'est un hasard, parce que vos albums sont sortis en même temps et que je sais que vous vous connaissez, bien évidemment, depuis longtemps, mais que j'arrive à Nevers et que je vois que, en fait, vous avez un projet ensemble. Bah, déjà, avant de parler de Wishes, vous pouvez nous parler de ce projet en trio ? Alors, on va s'éloigner un peu du jazz, mais je ne sais pas si on...
Non, pas tant que ça, non.
Ouais,
en fait, c'est une... En fait, c'est un projet qui existe depuis maintenant quelques temps, mais qui a eu la particularité de se dire qu'on allait commencer, par passer pas mal de temps à juste répéter, jouer, faire un son, sans forcément avoir que ce soit tout de suite à destination de faire un concert, mais de prendre le temps d'abord déjà de se rencontrer, autour de répertoire, d'un répertoire pour un trio de musique de chambre, une formation assez célèbre dans la musique classique et dans la musique contemporaine, qui est donc piano, clarinette, violoncelle, mais pas tant que ça dans le jazz et dans la musique improvisée. Et l'idée, c'est de se dire, allons-y, jouons, répétons entre nous, ça reste, entre guillemets, dans le cadre de la répétition, et puis petit à petit, essayons d'imaginer au travers de pièces qui peuvent être nos pièces, mais aussi certaines pièces de grands compositeurs et compositrices, essayer de voir un peu ce que ça peut donner, de faire un répertoire autour de ça, et de trouver le point commun. En fait, je suis un peu à l'initiative de ce projet. Et mon idée, c'était de revenir de plus en plus. Moi, je reviens à l'instrument, au violoncelle, je reviens à ces fameuses années dont on parlait juste avant, de tout ce que... où je suis allé dans la musique classique, où je suis allé assez loin, et je cherchais un trio avec deux musiciens ou deux musiciennes qui ont aussi cette histoire et cette culture et ce rapport à la musique classique, et sur laquelle je crois que tous les trois, on s'est appuyé sur cette base aussi pour en sortir. Mais ça fait quand même partie de notre terrain, et donc voilà, l'idée c'était de créer un trio. Au départ, et j'adorais l'idée de un trio sans obligation. On voit ce que ça donne.
Alors, je disais au début de l'émission, puisque en l'occurrence, le projet de Vincent, c'est un trio qui existe depuis longtemps. Vous, votre projet avec Eric MacPherson.
Voilà.
en trio aussi. J'aurais presque intitulé l'émission, et puis là, on parle du trio avec Catherine Delaunay, l'art des trios. C'est un format, vous, Sophia, j'ai posé la même question à Vincent, c'est un format qui vous convient particulièrement, le trio ?
Disons que le format qui est de trio, qui est particulier, qui est complexe et qui, disons, que je tourne autour depuis un long moment, et le trio classique piano, contrebasse, batterie, voilà, auquel je finis toujours par revenir. Ce qui n'empêche que cette formation dont parle Johannes, dont parle Vincent, qui est effectivement à son initiative, part de l'idée de trois musiciens et musiciennes qui ont un passé classique, dans la musique classique, et qui décident de se rejoindre autour de ça, mais avec tout leur vécu d'improvisateur et d'improvisatrice. Voilà. Donc, pour moi, peut-être j'avais moins le désir de retourner à cette partie-là qui fait partie de moi, de ma vie musicale. Mmh. En même temps, jouer avec Vincent et Catherine. Voilà.
Sophia, je vous propose qu'on écoute un premier titre, Free Together.
D'accord. Thank you.
Et oui, vous êtes bien sûr Jazzland à Ligre FM 93.1 en compagnie de Sophia Domanfisch pour la sortie de l'album Wishes sur le label qu'elle connaît bien d'ailleurs, Pee-Wee, et puis aussi de Vincent Courtois qui nous a présenté Lion for Lions. On parlait de la relation télépathique entre les musiciens. Sophia, alors Marc Elias, vous aviez déjà joué avec lui. Eric McPherson, vous aviez déjà joué avec lui ?
Non, jamais.
C'est la première fois. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de jouer avec lui et de réunir ce trio, enfin cette formation ?
Alors, je me suis rendue à New York pour jouer avec Théo Girard. Et Marc Elias est venu au concert. Et donc, on s'est revus. Et puis, ça nous a fait plaisir de nous revoir. Et on s'est dit, ce serait bien qu'on joue ensemble. Et au départ, j'avais pensé à Nashi Twets parce que j'avais enregistré avec lui en quintet. Et lui était d'accord. Et après, ça a posé un problème d'agenda. Et voilà. Après, j'ai cherché un autre batteur avec qui j'avais envie de jouer, que connaissait bien Marc,
oui.
Et il m'a parlé d'Eric.
Alors,
et voilà, en fait, je lui ai parlé d'Eric et il m'a confirmé qu'il s'entendait bien avec lui et qu'il le connaissait bien.
Alors, on parle souvent, les journalistes parlent souvent de relations télépathiques, mais là justement, autant Vincent avec Robin et Daniel Finker et Daniel Erdmann, vous connaissez depuis très longtemps, donc j'imagine qu'il y a des automatismes, mais là, comment ça se crée cette relation c'est simplement parce que ce sont des grands musiciens ou parce qu'il y a autre chose qui se passe ?
Je pense qu'il y a... Oui, ce sont des grands musiciens, ça c'est sûr.
Vous êtes de grands musiciens.
Après, déjà avec Marc, effectivement, la connexion était, je savais qu'elle était là, donc c'est aussi quelque chose de, je dirais, de rassurant. Après, Eric est un grand batteur et aussi, c'est quelqu'un très, très à l'écoute, très... C'est jamais quelqu'un qui devance, enfin je dirais, il est toujours là, très présent. Voilà, donc il y a ce paramètre-là. J'avais écrit des choses que j'avais, disons, bien préparées. Ça, c'est pour le côté de la réalisation. Parfois, la télépathie, c'est encore autre chose. Et je ne dis pas qu'elle ne s'est pas passée avec ce trio, mais c'est encore autre chose. Et je dirais que elle m'est vraiment apparue à certains moments. En écoutant des choses qui avaient été enregistrées. Et très précisément, j'avais écouté un concert enregistré, c'était par Xavier Prévost, d'un trio que j'avais avec. Qui s'appelait Dag, avec Simon Goubert et Jean-Jacques Avenel. Mmh. Et il se trouve qu'on réécoute rarement les concerts rapidement, mais là, il y avait un morceau de trop. Donc il fallait écouter pour...
Retirer.
Et bon, c'était un peu... Je n'aurais pas la punition, on n'a pas envie de réécouter tout de suite après. J'avais aimé le concert, c'était très bien. Et bon, forcément, je le réécoute très rapidement. Et non seulement, j'étais surprise. Je veux dire, je trouvais ça... Je sais pas, ça me plaisait beaucoup. Et c'est là où j'ai entendu des choses. Et je me suis dit, mais comment c'est possible ?
Que vous n'aviez pas ressenti au moment
si,
de...
Si, mais je ne sais pas, on est dans l'action en même temps.
Oui.
Donc c'est très difficile de... On est dedans, dehors, je ne sais pas comment expliquer. Donc c'est presque naturel. Mais à l'écoute, je me dis comment c'est possible qu'il y a cette note qui est presque instantanément. Il y a Jean-Jacques qui... Voilà. Il y a vraiment une espèce de... Ouais, c'est sûr, de télépathie. Et parfois, on a la conscience sur le moment. Enfin, c'est vrai que c'est... C'est une sensation presque physique aussi, de, encore une fois, d'être là sans être là. Enfin, c'est une perception, on a l'impression d'avoir des antennes qui se déploient.
Mais pour vous avoir entendu sur African Roots, par exemple, oui. J'avais vraiment l'impression aussi que ça se passait aussi.
Oui.
Il y avait quelque chose qui se passait là-dessus.
Et ça, ça a été... Mais après, ça se produit différemment. Où il y a des personnes, peut-être des musiciens, musiciennes, avec qui c'est instantané. Après, tout dépend de la forme musicale qui est choisie. Une forme très libre... permet peut-être cette chose-là d'une façon plus pratiquement du premier coup. Plus il y a des contraintes ou des difficultés très précises, il faut vraiment se libérer de ça pour arriver quand même à cette...
Ne pas être concentré sur
faut avoir de l'espace quand même pour et une certaine tranquillité, je dirais, pour arriver à ça.
Et justement, bah, ça nous permettra de rebondir d'ailleurs sur le trio Johannes. Mais je vous propose qu'on écoute un autre titre, Le Royaume des Ombres.
Oui.
Non, c'est... si.
Oui, oui. Ah si, c'est... Si.
Allez, on y va, d'accord, ok. Vous êtes bien sûr Jazzland à Ligre FM 93.1. On vient d'entendre un morceau très court, Le Royaume des Ombres du label de Sophia de Monsich, avec Marc Elias et Eric McPherson sur le label Piwi. Mais pourquoi je me suis trompé? C'est parce que justement, derrière tout ça, il y a l'endroit où c'est enregistré. Il y a quelqu'un de très important quand même dans tout ce process. Et vous l'avez enregistré à Sextant?
Oui, c'est Vincent May. Qui l'a enregistré.
Qui est un des piliers aussi du label.
Ah, c'est le créateur du label qui s'est éteint un moment et à qui il a redonné vie à ce label. Et justement, il a décidé, je dirais, de relancer le label. Il y a quelques années, c'est quand il m'a proposé que le disque que j'enregistrais en solo soit le premier opus de sa nouvelle vie.
Du label, mais qu'on suit beaucoup. On a reçu beaucoup d'artistes du label, Phil Reptile notamment, enfin plein d'autres. Mm. Parce qu'on adore effectivement ce qui est produit par ce label. Oui, on parlait de l'équilibre entre écriture et improvisation. Avec Vincent, on parlait de cet attachement à une certaine, pas tradition, mais racine du jazz, là en l'occurrence West Coast chez Vincent. Chez vous, on sent aussi un attachement à une identité du jazz, des racines du jazz. Peut-être Steve Lacy, dont vous êtes très proche. Je pense à Steve Lacy parce qu'hier, on a rencontré Mathieu Donarier qui nous a beaucoup parlé de Steve Lacy, mais je sais que vous êtes proche aussi de Steve Lacy. Oui. Vous êtes attaché à ces racines du jazz,
hein. Oui. Oui.
Si on vous demande de choisir entre Cecil Taylor et Thelonious Monk, vous allez nous dire non, c'est ça.
Après, on peut avoir des goûts, enfin des préférences qui n'ont rien à voir avec. Donc je ne choisirai pas, mais il y a l'un des deux dont je me sens, enfin qui me touche plus, très. Mais oui, j'ai assez jeune, j'ai écouté Duke Ellington. Ça a été une révélation, je dois dire. Et après, j'ai toujours. Après, ça a été par d'autres biais, mais j'ai toujours été très attirée par la relation de la, de la, de de l'entité, je dirais, rythmique de la contrebasse et de la batterie. Voilà, ça a été, je crois, les premières choses que j'ai écoutées aussi qui m'ont vraiment marquée, c'était Max Roach, c'était Philly Joe Jones, voilà, et les bassistes, et les pères, et les, c'est, voilà.
Et les violoncellistes aussi.
Les violoncellistes,
bien sûr. Mais d'ailleurs, non, mais c'est ça, parce que en fait, on vous sent très attaché à la forme. Je parle aussi, poser la question à Vincent de revenir ou de rester sur une format plutôt acoustique, plutôt. Non, pas de.
Alors, ouais, enfin, ça c'est un peu. Enfin, c'est bon, là, c'est peut-être un peu différent, mais pour le violoncelle. Mais en fait, c'est vrai que quand. Au tout début, quand j'ai commencé à jouer, moi, la question de l'amplification du violoncelle était évidente. Il fallait passer par là, ce qui n'était pas toujours facile parce qu'il n'y avait pas exactement les moyens qu'il y avait maintenant. Mais aussi, l'amplification à l'époque, dans les années 90, le son que produisait l'amplification, la cellule, amenait le violoncelle à un endroit qui correspondait à cette époque-là. Et c'est vrai que petit à petit, moi, j'ai un besoin de revenir à l'instrument. J'ai eu une expérience dans les années, je sais pas, ça devait être 2000, un truc comme ça. J'ai eu l'occasion de faire un trio avec Joachim Kuhn et Dominique Pifarelli. Et ça a été, c'était à Baden-Baden en Allemagne, et ça a été une révélation. Pour moi, il y a vraiment eu un avant, un après, parce que grâce à Joachim qui avait amené un morceau, où j'avais un peu de l'écriture, mais c'était très improvisé. Mais là l'idée, c'était vraiment le trio classique, violon, violoncelle, piano. Et donc, ça m'a amené finalement à jouer complètement autrement par rapport à ce que je faisais avant, et de revenir aussi, d'intégrer dans les improvisations, dans ce jeu jazz, d'intégrer vraiment le son du violoncelle que j'avais appris dans mes jeunes années et que j'avais peut-être un petit peu mis de côté pendant un certain temps pour sonner entre guillemets jazz. Et me rendre compte qu'il fallait faire un tout avec tout ça, et qu'en fait je me sens pas moins musicien de jazz maintenant qu'avant, mais par contre je reviens complètement à l'instrument. Il y a quasiment plus de formations où je joue amplifié, mais ça n'existe quasiment plus à part quand je joue avec le trio, avec le deux sax ténor, je suis parfois obligé. Il y a beaucoup de batteurs aussi maintenant avec qui j'aime essayer de jouer acoustique. Ou alors, comme avec le trio, il y a une légère amplification. Je suis obligé pour certains passages, mais de plus en plus, je préfère me pencher sur l'instrument, aussi sur la qualité de l'instrument, sur la qualité des réglages, etc., pour pouvoir le moins possible utiliser le son des cellules qui, pour moi, est devenu un petit peu pas exactement dans ce que j'ai envie de produire en ce moment. Il y a aussi beaucoup de violoncistes passionnant en ce moment, qui travaille beaucoup avec beaucoup de pédales, beaucoup d'effets. C'est de moins en moins mon histoire. Moi, j'ai commencé ma carrière avec des racks derrière moi, c'est incroyable. Et là, maintenant, je suis.
Oui, c'est pour ça.
Maintenant, j'aime vraiment revenir juste avec mon violoncelle. Et voilà.
Et vous, Sophia
Je dois dire, quand on a joué acoustique avec Vincent et Catherine, c'était quand même très agréable.
Ouais.
Après, disons que l'amplification d'un piano n'entraîne pas vers les mêmes choses. Je comprends tout à fait ce que veut dire Vincent, et je pense que un violoncelle électrifié, ça entraîne vers vraiment autre chose. Pas le piano, parce que le piano, voilà, ça reste dans des proportions qui ne. Bien sûr, le son est moins agréable, mais avec un bel instrument, quand on joue acoustique, on se rapproche de l'acoustique. Enfin, j'ai pas le sentiment de jouer un instrument électrifié. Par contre, j'adore jouer du Fender Rhodes, qui est pour moi le seul vrai piano, je dirais, voilà, instrument à part entière. Et là, c'est autre chose, c'est électrique. Et il y a en même temps un rapport acoustique, parce qu'il y a finalement une...
Ouais, vous n'avez pas abandonné le Fender pour revenir à une forme acoustique, vous allez y revenir au Fender.
Ah bah oui, mais c'est François Corneloup qui m'avait invité dans son orchestre Révolution. Et c'est la première fois que je jouais uniquement du Fender. Et petit à petit, ben, j'ai appris, bon, avec des pédales, etc. Puis le fait ça se joue avec un certain niveau. Et finalement, ça m'a appris beaucoup de choses, y compris par rapport au piano acoustique.
Très bien, merci, le temps passe très 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 vite, il est déjà l'heure de se quitter. On va se quitter d'ailleurs avec forcément un titre qui s'appelle Come Again. Vous revenez quand vous voulez, vous avez l'adresse, vous avez 30 serviettes de l'album Wishes qui est paru sur le label. Puis oui, il y a plein de belles choses. En ce moment, il y a Pierre Carbonneau aussi sur le label, formidable, il chante du Brassens d'ailleurs, magnifiquement d'ailleurs, il faut l'entendre. Donc on se quitte avec Come Again, à suivre Lusitania. La semaine prochaine, Lionel Eskenazi recevra un jeune batteur dont vous avez peut-être entendu parler, Christophe Marguet, et puis un trompettiste, Nicolas Geneste. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours. Donc on se quitte avec Come Again et on se dit à dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Ciao.
Allegre FM 93.1.